c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Radio Dune, la radio du bassin d'Arcachon avec Alain Jeanne.
Chut, on écoute la télé avec votre magasin Optical Center de Biganos et la Teste de Buch. Optical Center, c'est toute une équipe de professionnels à votre écoute, des offres exceptionnelles, les plus grandes marques, le choix et la qualité. Optical Center, votre spécialiste en optique et en audition, vous accueille sur le bassin d'Arcachon, 23 route des Lacs à Biganos et 401 avenue Vulcain à la Teste. Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Gironde sur mariemorin.fr.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Radio Dune où vous nous écoutez chaque lundi à 16h sur le 104.4 sur tout le bassin d'Arcachon. Pendant une heure, on va passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités, ça tombe bien. Tout de suite, voici le sommaire.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de votre nouvelle émission hebdo de Chut, on écoute la télé aujourd'hui. Nous allons consacrer une large page de cette émission à la sortie du film Poli, mercredi dans les salles. Le film de vos vacances de la Toussaint à ne pas manquer. Avec Nicolas Vanier qui va être notre invité d'ici quelques instants, accompagné de Julie Gaillet et Patrick Timsit. Rendez-vous exceptionnel. Et puis autre rendez-vous exceptionnel, ce soir un épisode inédit de Joséphine Ange Gardien va être diffusé sur TF1. Pour la première fois dans Chut, on écoute la télé, Mimi Mathy sera notre invité exceptionnel. C'est le lancement de la saison 4 de 10%. C'est mercredi sur France 2. Thibaut de Montalembert, alias Mathias, sera notre invité. Nous dira tout sur les coulisses de cette ultime et dernière saison de la série. Et puis enfin, David Ban. Eh bien, notre ami David arrive dans la série Plus belle la vie, dans l'épisode. Est arrivé d'ailleurs dans Plus belle la vie, dans l'épisode de samedi. Il arrive pour le rôle de Valentin Carrier. Il nous dira tout. On parlera évidemment comédie, mais aussi musique avec David. Rendez-vous à ne pas manquer en fin d'émission. Vous l'avez compris. Ça s'annonce chargé, alors tout de suite voici notre spécial Poli.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, c'est notre coup de cœur. Eh bien, cette semaine, le film Poli sort mercredi au cinéma et on va donc faire une spéciale de ce film avec Nicolas Vanier qui va démarrer avec nous cette émission. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
C'est un habitué maintenant de Chut, on écoute la télé. Moi, je suis super heureux de t'avoir parce que tu nous fais évader, voyager, merveiller dans tes films. Et là, c'est une nouvelle adaptation après Belle et Sébastien. C'est Poli. Tu vas nous raconter un peu à ta façon et en adaptation, eh bien, l'aventure de ce petit poney qu'on connaît tous.
Oui, bah c'est un beau cadeau que la vie m'a fait 50 ans après avoir été tellement ému. Je me souviens lorsque j'étais dans la chambre de mon grand-père, dans la ferme que j'habite aujourd'hui, et que je voyais comme ça ces épisodes sur l'unique chaîne de télévision de l'époque en noir et blanc, ces deux histoires, Belle et Sébastien et Poli, de les porter à l'écran alors même que j'étais moi la cible idéale, déjà enfant amoureux de la nature, très sensible à cette relation incroyable qui peut exister entre un animal et un adulte ou un enfant. Et donc, Poli, voilà, c'est cette relation extraordinaire qu'il a dans ce Poli. Donc, cette adaptation existe entre une petite fille et Poli, un Poli martyrisé, en quelque sorte, voilà, dans un cirque. Et qui va connaître avec cette petite fille des tas d'aventures, des tas de rebondissements au travers de paysages somptueux que sont ceux du Gard et des Cévennes.
On va découvrir évidemment l'histoire de Cécile. Déjà, comment tu as trouvé la comédienne? Combien t'as casté d'enfants pour trouver cette petite comédienne qui joue le rôle principal de Cécile?
Ben, 2800 jeunes filles qui ont fait acte de candidature, qui ont envoyé des vidéos.
Ah oui, quand même.
À partir duquel on a effectivement assez rapidement sélectionné 100 jeunes filles qu'on a auditionnées. Et puis de 100, on passe à 20 et de 20 à 10. Et Elisa s'est assez vite imposée de par voilà, sa fraîcheur, sa capacité à jouer, sa capacité à endurer des séances de travail. Et effectivement, elle a été à la hauteur parce que 10 ans, 11 ans, c'est pas grand hein, pour être le rôle principal d'un film.
C'est son premier grand rôle en plus,
voilà,
je suppose.
Hein. Le premier rôle, donner la réplique à François Cluzet ou à Timsit ou à Julie Gayet, voilà, c'est pas rien. Et non, ça a été une fois de plus un beau moment de vie, un sacré beau moment de vie.
Alors on va en parler évidemment aussi avec Patrick Timsit et Julie Gayet qui vont nous rejoindre d'ici quelques instants. Mais alors là, c'est bien d'avoir mis Patrick Timsit avec des cheveux. Ça fait bizarre.
Ah, quelle rencontre merveilleuse. Je connaissais un tout petit peu Patrick pour l'avoir croisé dans quelques émissions auxquelles on a participé tous les deux, et je me sentais très en affinité avec le personnage. Et lorsque effectivement j'ai écrit Polly, j'avais tellement envie de Patrick. J'étais absolument emballé de notre rencontre. Il a foncé dans le rôle. On s'est beaucoup amusé effectivement avec les costumes, la coiffure, le maquillage, à faire ce personnage exubérant, gouailleur de Branko Halu. Et il a donné à ce film vraiment de la couleur. J'étais absolument ravi.
Alors j'ai eu la chance de voir le film avant tout le monde. Pour être honnête, il y a eu des scènes moi qui m'ont vraiment surpris. T'as carrément mis un poney à l'eau. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est reconstitué informatiquement avec le numérique? Aujourd'hui, on peut faire des choses, peut faire presque n'importe quoi à un poney finalement.
Oui, bah c'est ce qui me touche d'ailleurs beaucoup aujourd'hui dans les salles. Je vois combien les enfants ont besoin effectivement d'être rassurés sur le fait que ce qu'ils voient est vrai. C'était le cas dans Donne-moi des ailes, où on aurait pu effectivement fabriquer assez facilement, d'ailleurs numériquement, des oies et les rajouter autour d'un ULM. Ça a été le cas, bien évidemment, parce que c'est une vraie marque de fabrique, et je crois que je tiendrai jusqu'au bout à refuser de fabriquer sur ordinateur des animaux ou à créer des effets spéciaux. Il y a tellement matière dans la nature à filmer de belles choses que je me vois pas en fabriquer sur ordinateur. Et donc voilà ce que vous voyez dans ce film, Polly dans l'eau, Polly dans la nature, la petite fille avec Polly, tout ça a été effectivement préparé, parce que ça exige de la préparation, mais c'est de la vérité, c'est du vrai. Et je pense que c'est ça qui provoque tant d'émotions,
oui.
De plaisir. On me demande souvent, mais comment analysez-vous le fait que tous vos films, depuis le premier, aient connu tant de millions et de millions à chaque fois de téléspectateurs? Et je pense que même si consciemment les enfants et même les adultes ne sont pas capables de faire la différence aujourd'hui entre un animal fabriqué sur ordinateur et un vrai, on le ressent très profondément inconsciemment, et qu'il se dégage de cette vérité une émotion qu'on n'atteindra jamais, j'espère, avec des animaux, voire des humains fabriqués sur ordinateur.
C'était difficile d'avoir les droits d'adaptation pour Polly ou pas? Vu que tu avais eu Belle et Sébastien, est-ce que ça facilitait un petit peu les choses? Est-ce que c'était dans les tuyaux depuis longtemps?
Dans la mesure où c'est une série aujourd'hui qui se perdait un petit peu dans les entrailles des mâles d'autrefois, il était question effectivement d'essayer de redonner vie à cette série au travers d'un film qui, je crois, a été réussi avec Belle et Sébastien. En tout cas, ça a été ressenti en tant que tel par Mehdi, qui jouait dans Belle et Sébastien, qui est donc l'héritier. Et donc, du coup, pour Polly, c'est quelque chose qui s'est fait facilement.
Alors, l'aventure s'est déclinée aussi, hein, l'aventure de ton film s'est déclinée aussi en roman chez Ixo Édition. Donc, si vous voulez aller découvrir Polly en livre, eh bien, c'est le moment aussi, n'hésitez pas. Quelle a été la scène pour toi la plus compliqué ou que tu redoutais le plus à tourner?
Les plus compliquées n'ont pas été celles que je redoutais le plus.
C'est souvent le cas.
Effectivement, Polly dans l'eau, on a préparé Polly en hiver dans des piscines chauffées, etc., ces séquences. Et lorsqu'on a tourné, il faisait 44 degrés à l'ombre. Hein, et Polly n'avait qu'une envie, c'est d'aller dans l'eau. Et finalement, ces séquences ont été relativement faciles, même si techniquement c'était difficile à tourner. En revanche, il y a eu des moments, des séquences comme celle où Polly déchire une affiche qui ont été plus compliquées. Et le plus difficile a été définitivement de faire reculer Polly sur une petite corniche très étroite, parce que autant il est facile pour un poney et un cheval, enfin facile, pas trop difficile d'avancer sur une corniche étroite, mais de reculer,
ouais, c'est autre chose,
beaucoup plus compliqué.
Ce poney, est-ce qu'il vous a offert pendant le tournage des moments cocasses qu'on n'a pas vu à l'écran?
Ah ben, parce qu'on oui, fait... comme toujours avec les animaux, hein, ce qui me frappe, mais de plus en plus au fur et à mesure que ma vie avance avec les animaux, c'est de voir à quel point les animaux sont des éponges, à quel point ils peuvent, par exemple, ressentir le stress d'une équipe qui serait dans l'impatience, dans l'énervement, parce qu'on n'obtient pas ce que l'on souhaite. Et lorsqu'on a cette attitude que je crois que nous avons aujourd'hui avec mes équipes, parce qu'on a fait des films avec des loups, on a fait des films avec un chien, on a fait des films avec des ours et j'en passe et des meilleurs, et des oies, eh bien, à l'inverse, les animaux, lorsqu'ils sont dans un environnement qui n'est pas justement le stress, l'énervement, arrivent à ressentir ce que vous souhaitez et vous font parfois des cadeaux, mais absolument incroyables. Donc il y a des moments cocasses, mais il y a aussi des moments d'émotion, parce qu'on voit que les animaux vous offrent ce que vous attendez, mais ils vous l'offrent véritablement comme un chien, Dieu sait si ça m'est arrivé de nombreuses fois, qui comprend que vous êtes triste, malheureux, blessé et qui vient vous réconforter. Et sur un tournage, il y a des instants absolument incroyables où les animaux, les loups m'ont fait des cadeaux comme ça, absolument incroyables, ils vous offrent ce que vous attendez. Et c'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est définitif.
Est-ce que il y a des projets déjà dans les tiroirs? Est-ce que il y a peut-être déjà un film quasiment tourné pour l'année prochaine, parce que le rendez-vous est presque annuel maintenant ensemble.
J'ai en projet une comédie. Je vais sortir donc de mon registre, on va dire, de confort, mais j'ai très envie, voilà, de m'essayer à une comédie, d'autant plus que voilà, je trouve qu'elle est très joliment écrite, que j'ai un casting absolument incroyable qui a accepté de m'accompagner dans cette aventure, et j'ai un rêve que j'ai depuis longtemps aujourd'hui, un grand rêve qui est d'adapter au cinéma un roman que j'ai écrit sur la ruée vers l'or en Alaska, auquel Jack London a participé, un roman qui s'appelle L'or sous la neige, et qui, dans sa deuxième partie, est un sujet on ne peut plus d'actualité, à un moment où effectivement tout le monde se pose ou devrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui va en advenir de cette pauvre petite terre qui va pas bien du tout.
Le réchauffement climatique, au cœur effectivement de l'actualité. On va accueillir Julie Gaillet, Patrick Timsit d'ici quelques instants. On écoute d'abord la bande-annonce, Poli, ça sort mercredi au cinéma. Et aujourd'hui, on a de la chance, c'est Nicolas Vanier qui est notre invité. On écoute.
Mon cher petit papa, tu me manques beaucoup. Ici, j'ai beaucoup de mal à me faire de nouveaux copains.
C'est la parisienne, elle peut venir avec nous.
Jamais elle sera de mon clan, celle-là.
Vous savez, moi non plus, j'étais pas du coin. Il m'a fallu un peu de temps pour me faire accepter. Et encore, j'étais ni parisienne, ni divorcée.
Approchez. Et maintenant, celui que vous attendez tous, l'unique, le sensationnel Poli.
On va s'en débarrasser, on va le remplacer par un plus obèse.
Voilà pour la bande-annonce, Poli, donc mercredi au cinéma. Merci Nicolas d'avoir nous
avoir
fait l'amitié d'être avec nous une fois de plus. Ça fait plaisir.
Un grand plaisir et peut-être à l'année prochaine.
Bah oui, on se retrouve pour la
si
pour
le cinéma
la comédie.
Survit à tout ça.
Oui, je l'espère en tout cas. Enfin, avec des films comme
ça. Il faut aller dans les salles. Il faut une solidarité pour le monde du cinéma. Allez dans les salles, pas
exactement
simplement pour voir Poli, pour aller voir les films.
Exactement. En tout cas, Poli, moi c'est le film que je vous conseille et c'est mercredi dans les salles. Merci Nicolas.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite.
Donne-moi ton cœur, ta main et le reste. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs, chagrin et le reste. Dis-moi qui tu es, qui tu es. J'imagine un monde céleste. Personne ne sort, non, où personne ne reste. J'imagine un cri, des cris dans la nuit. J'imagine tellement de choses de toi. C'est peut-être toi que je suis des fois. J'imagine un nid de récits, de mots tristes. J'imagine un lit, une insomnie complice. J'imagine une moi qui se noie dans tes vices. Sans foi ni loi, dans les mailles je me glisse. J'imagine un homme, une femme, une nourrice. Qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques. Un gros tintamarre dans mon âme novice. Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es. Je veux revoir le monde de l'autre fois. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir l'ombre de l'autre toi. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir le monde de l'autre fois. Celui que le monde ne connaît pas. Je qui tu es, mais surtout s'il te plaît donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es, qui tu es.
On écoute la télé, le Talk Show Radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé, c'est la suite de notre spécial Poli avec Julie Gaillet et Patrick Timsit qui nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Des habitués de l'émission, moi je suis toujours très heureux de vous avoir
c'est
tous les deux.
Bonjour Julie Gaillet.
Bonjour, je suis Patrick Timsit.
Voilà. Je me doutais du coup.
Voilà.
Alors, Poli, c'est une belle aventure, une belle adaptation. Est-ce que vous imaginiez à un moment donné, si vous avez vu la série originale, peut-être à un moment donné dans votre carrière, un jour incarner ces personnages et faire partie de cette belle adaptation qu'a fait Nicolas ?
Alors, pas du tout. Surtout que là, c'est quand même, j'allais dire, pas librement adapté, mais comme Nicolas Vanier avait déjà fermé, enfin, est en train de fermer une page, mais avait déjà tourné Belle et Sébastien.
Tout à fait.
Pareil, de Cécile Aubry. Il a décidé finalement, plutôt que, parce qu'à l'époque, la série Poli, c'était Mehdi, de changer le petit garçon par une petite fille. Et donc,
c'est original.
C'est
ça.
Vrai que là, c'est, le personnage s'appelle Cécile.
C'est un bel hommage.
Clin d'œil à Cécile Aubry.
Et oui.
Et il a demandé à Mehdi, qui d'ailleurs a été très ému, je crois. Enfin, Nicolas m'avait dit ça. Donc moi, j'ai pas fait le. Enfin, je me suis sentie assez libre d'imaginer, voilà, quelque chose de nouveau qu'on construisait. En tout cas, avec des belles valeurs. Et toi, Patrick Timsit ?
Eh ben moi. Non, je m'étais même pas posé la question, même après, même pendant. D'abord, je me suis jamais imaginé dans un film, quel que soit le film, quand j'étais petit. J'avais une boule au ventre, je savais pas quelle était cette douleur au ventre quand je regardais des films, que ce soit Tarzan ou quoi. Mais là, jouer dans ce film, c'est vraiment, c'est ce que dit Julie, une histoire finalement originale et les souvenirs d'enfance nous ont servi à évidemment être touchés, complètement pris dans l'histoire, mais c'était pas de vouloir jouer dans un film de Poli qui était un souvenir d'enfance, mais de vouloir jouer dans ce film qui est complètement aussi d'actualité par ses messages, par tout ce qui est raconté et dit dans le film.
C'est vrai qu'il a pris plein de références. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé dans son travail de recherche. Nicolas, il y a des références, à Pinocchio avec ton personnage, d'une certaine manière. Il y a des références.
On va en parler du directeur du cirque. On va en parler.
Mais des références aussi aux gendarmes à Saint-Tropez, on pourrait dire, avec les deux gendarmes.
Julie, tu joues la maman de cette petite fille. Faut
oui, oui. Et c'est vrai que c'est dans les années 60, donc c'était avant mai 68. C'était il n'y a pas si longtemps le droit de vote pour les femmes. Donc on sent que cette femme, jeune divorcée, ce qui n'était pas du tout à l'époque, c'était très compliqué, donc on était un peu montré du doigt. On voit comment elle se bagarre, comment c'est pas facile, et en même temps, elle veut que ce soit positive, elle veut que, voilà, on va de l'avant, on va essayer d'être heureuse. Et puis, ça, voilà, toujours sa fille veut voir son papa. Et finalement, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu ça avec mes enfants, alors que, c'était il n'y a pas si longtemps, et on voit plein de thématiques d'aujourd'hui.
Ça me rappelle, dans mes spectacles, je ne suis jamais aussi fière que quand tout d'un coup l'actualité rejoint mon spectacle. On imagine que génie, le mec il a écrit ça dans la nuit, alors que pas du tout, c'était écrit depuis longtemps et tout ça. Et là, ton personnage, c'est une infirmière, et c'est vrai que cette volonté de montrer ces femmes comme ça, indépendantes, qui va travailler, qui va prendre sa petite fille sous le bras, qui a besoin de personne, qui s'installe, infirmières, qui ont été montrées du doigt, dénoncées dans des immeubles où on voulait les évacuer pour cause de danger, et la maltraitance animale, alors là, l'horreur de cette actualité qui rejoint. Donc il y a du fond, et le fond est juste, puisque l'actualité rejoint le film.
Patrick, ça t'a fait quoi de te voir avec des cheveux longs?
Ça fait plaisir. Il est beau. Il est beau.
Pour définir le directeur du cirque, je dirais qu'il est un peu affreux, ça les méchants quand même.
Ah ouais, mais alors ce côté, alors on peut pas, je sais pas, quand je disais Pinocchio, mais il y a le côté, tu sais, cigale, le fouet, le maître loyal.
C'est ça.
Mais t'es grandiose dedans. Et à la fin, il nous montre la faille, il est bouleversant. Moi, j'ai adoré le personnage de Patrick, et quand je présente le film à chaque fois, c'est « il branque à loup ». C'est vraiment, unanimement, les gens trouvent ta composition incroyable.
Merci. Cool, en tout cas, bah, évidemment, le plaisir de rentrer dans un personnage et de vraiment d'éviter l'écueil aidé par Gérald aussi.
Gérald, c'est directeur artistique coiffeur.
Ouais. Et Nicolas, et cette volonté aussi d'être dans le vrai. De ne pas rejoindre un personnage qui serait, une caricature ou dans le burlesque, quoi. Ouais. Ça reste un vrai personnage. Donc ses cheveux étaient nécessaires, ses longs cheveux. Et puis, il a une grande mèche vers le haut quand il est en spectacle, et quand il est fâché, cette mèche, et quand il est abattu, lui tombe sur le visage et lui transforme le visage. Ça, c'est des idées que m'ont énormément amusé, aidé. Cette moustache, c'était la mienne. J'essaye d'avoir le moins d'artifices possible au niveau. Mais là, on est obligé de mettre les cheveux. J'ai pas pu faire. Même si je les ai poussés, j'aurais pas pu.
Quelle a été la scène qui vous a le plus impressionné, tous les deux?
Non, mais moi, il y a de la scène où ma fille disparaît. Et je suis désespérée. J'arrive au bar. Et là, il y a cette espèce de duo des gendarmes. Et c'était l'enfer.
C'était un peu Cruchot, là, oui. Hein.
Pas.
C'était un peu Cruchot et son équipe, là, effectivement, les deux gendarmes.
Là, je ne pouvais plus arrêter, mais je pleurais de rire. Et puis surtout, c'était difficile parce qu'ils improvisaient là sur le moment. Et c'est à ce moment-là que Nicolas dit « Ah, mais alors, on va faire Taki Valki ». Alors, le Taki Valki, on est resté pendant 2 jours sur le Taki Valki. Voilà, donc moi, je me souviens de ce moment-là. Mais la scène qui m'a le plus fait plaisir... C'est une 304 alors, la voiture, ou pas? Une Peugeot?
304. Peugeot, c'est sûr, couleur bleue magnifique. Et j'aurais tendance à penser petite 304 cabriolet Pininfarina quand même, je dirais.
Merci. Et donc je conduis cette petite voiture qui est un petit bolide ancien, et conduire des vieilles voitures, moi j'ai l'impression que je suis en vacances, quoi. C'est merveilleux, cette sensation.
Dire à notre époque, mais ça sent l'essence et ça sent bon. contrebalancer tout le discours d'avant.
On a tué tout le début de l'interview.
Mais oui, mais je suis broncalou, moi. C'est dur de se débarrasser d'un personnage.
C'est vrai.
Donc, il y a quand même cette chose de, quand on va au moment classique, où on voit, mais alors, tout le monde qui est, tous ces fous fans de vieilles voitures. Mais moi, j'ai pris un plaisir inouï à conduire cette vieille voiture. Donc, à un moment, il faut que j'aille vite. Et Nicolas me dit, est-ce que tu pourrais arriver un petit peu vite et tu freines là? Oui, pas de souci. Et je suis arrivée et je leur ai fait un dérapage qui est dans le film. Oh, je me suis éclatée.
Et ils ont tout gardé.
Il a dit, on va pas faire une deuxième prise. C'est bon, on la garde. Elle est bonne.
Elle est parfaite. Et toi, Patrick, la scène qui t'a le plus marqué?
Moi, les scènes qui m'ont le plus marqué, je dirais qu'il y en aurait deux comme ça qui me viennent en tête immédiatement. C'est le numéro de ces deux clowns qui sont fantastiques et qui font ce numéro dans le chapiteau. Et à un moment, le poney est réellement, et on doit avoir un silence, et on a la boule au ventre, parce que c'est un vrai poney. Je veux dire, il n'y a pas de trucage dans
l'Amérique. Comme nous le disait Nicolas.
Ce poney
est
sur cette petite passerelle. Il est dressé, il doit franchir cette petite passerelle, et là, on a la responsabilité de sa concentration. La deuxième, c'est cette petite fille, alors je vais essayer de ne pas spoiler, mais à un moment, elle est quand même sur un radeau, et c'était sur un radeau avec ce petit poney, et le courage de ce petit bout de chou avec un poney qui est quand même faut attention, le poney ça a un caractère, hein, donc il y avait plusieurs poneys pour jouer ce poney, parce que selon les caractères, ça c'est pas un secret que je dévoilerai comme ça, on le sait très bien, justement pour ne pas avoir à fatiguer la star polie. Donc il y a et parfois on changeait d'un poney un peu plus agressif qui a été là pour le combat, et un autre poney doux, et là de les voir tous les deux ce courage sur ce petit radeau.
Merci à tous les deux d'être passés nous voir. Police, ça sort mercredi au cinéma. On va se requitter avec un petit extrait. Moi, je vous dis, je vous envoie plein de bonnes ondes, en tout cas, pour cette fin d'année 2020 à tous les deux. Merci à vous.
Merci. Ah, surprise !
Si Brancalo retrouve Polly avant nous, tu vas le livrer au boucher qui en fera de la chair à pâté.
Et du saucisson. Il faut nous aider.
Moi, ça m'étonne pas qu'il soit échappé, ton poney.
Mais comment tu traites tes animaux ?
Polly est ici, d'accord ?
Roby, j'irai cracher ?
Oui.
Ouais. Tu peux partir tranquille, ils vont être occupés pour un moment.
Petite maman, je m'en vais de la maison.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé aujourd'hui consacré eh bien à TF1 qui ce soir va nous proposer un épisode inédit de Joséphine Ange Gardien. Et je peux vous dire que je suis pas peu fier parce qu'il y a très longtemps qu'on l'attendait dans notre émission. C'est Mimi Mati qui est avec nous. Bonjour Mimi.
Bonjour, ravi d'être là.
Merci d'être là, ça me fait super plaisir parce que moi je suis Joséphine Ange Gardien depuis maintenant 23 ans. C'est une histoire absolument incroyable, plus de 100 épisodes. C'est une aventure hallucinante. Est-ce qu'en 97, on pouvait imaginer un tel succès, une telle longévité?
On ne sait jamais ce qui va se passer quand on démarre une série. Surtout en 97, il y avait peu de chaînes, il y avait énormément de séries plutôt policières et c'était un peu un ovni. Joséphine est arrivée un peu comme un ovni au milieu de toutes ces séries policières. Et puis, ben, on est encore là 23 ans après. C'est une histoire fabuleuse.
Alors c'est en plus une série qui vous a fait énormément voyager, puisqu'il y a eu un épisode à La Réunion, il y a eu des épisodes des fois aux quatre coins du monde, parce que bah, évidemment Joséphine, elle peut atterrir n'importe où en un claquement de doigts dans le monde finalement.
C'est l'avantage de ce personnage, et c'est pour ça que j'ai pas de lassitude, puisqu'on change à chaque épisode, on change d'univers, on change de personne dont je m'occupe, on change de comédien, donc c'est vrai que on peut tout se permettre. On a fait un western, on est parti dans le passé, on est parti deux fois en Thaïlande, effectivement on est allé au Maroc, puis c'est pas fini, on a encore envie de vivre des aventures lointaines, mais aussi des aventures proches de Paris et en France.
Exactement, des aventures proches des gens très souvent, avec des sujets de société très souvent aussi, qui touchent souvent les enfants particulièrement. Et là, ça va être le cas avec les épisodes de ce soir, parce que là, on va être dans le monde adolescent, avec ce petit secret entre amis qui va être plongé dans le monde de l'athlétisme. Et vous avez appris plein de choses, je suis sûr, en 23 ans, sur plein de mondes différents, hein, en tournant ces sujets-là.
Tout à fait. L'épisode de ce soir, effectivement, traite de la compétition entre mômes. On parle souvent de la compétition, hélas, pour des raisons moins honorables et vu ce qui se passe en ce moment dans le patinage et tout ça. Mais là, on a essayé de montrer que entre filles, il pouvait y avoir une vraie solidarité, qu'il y a une complémentarité. Les quatre jeunes qui jouent les quatre personnages des filles sont formidables. Toutes les quatre, complètement différentes. Elles ont chacune des problèmes. Et on essaye d'aborder le thème de la compétition quand on a 17 ans, 18 ans et qu'on aurait envie de faire autre chose et pas forcément s'entraîner tous les jours intensément. C'est un monde très dur et un monde qui est sans pitié.
Qu'est-ce que vous répondez aux gens des fois qui critiquent la série ? Parce que moi des fois j'ai entendu des critiques de confrères ou de choses comme ça et moi je leur dis, écoutez, allez regarder par 5-6 millions de téléspectateurs. Voilà, c'est la seule belle réponse qu'on peut faire, c'est que le public est là et ne se lasse pas.
Mais je crois qu'il en faut pour tous les goûts. Moi, je suis pas fan de toutes les séries qui passent sur toutes les chaînes. Je crois que on a la chance d'avoir une diversité dans le paysage audiovisuel qui permet de regarder quand on a envie de regarder quelque chose. Après, que certains n'aiment pas, je comprends parfaitement. Moi, je ne suis pas fan que de Joséphine, je regarde plein d'autres choses. Et je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Mais la seule chose que je n'accepte pas, c'est qu'on dise que c'est mal fait, mal joué ou mal produit. Parce que j'ai la chance d'avoir une équipe de producteurs des productions formidables qu'on su renouveler les images, le style, le rythme. Et je trouve que l'évolution est belle. Puis c'est vrai que le public suit. Et quand on a fait plus d'un milliard de téléspectateurs, comme c'est le cas, bah, moi, je pense qu'il en faut pour tous les goûts.
Donc, c'est une série qui a su évoluer avec son temps. Moi, je trouve.
Oui, ça, c'est vraiment grâce à... On avait commencé avec Eddie Cherki. Et puis, il y a Sébastien Pavard qui a repris la relève avec l'heure de Kervas-Doué. Et ils ont su vraiment évoluer, rythmer plus, tourner de façon plus moderne et plus rapide, plus rythmée. Voilà, je pense que... Moi, je suis très fan de cette série, tout en adorant d'autres séries.
J'imagine bien. Et puis, quel genre justement de téléspectatrice vous êtes? Qu'est-ce que vous aimez regarder à la série? On va en parler d'une dans quelques instants, puisque vous allez faire une apparition remarquée dans l'ultime et dernière saison de 10%. Mais quelles sont les séries que vous regardez à la télé?
Bah, 10% justement. J'adore Munch. J'aime les séries bien faites. J'aime les esprits criminels. J'en regarde sur Netflix. J'adore The Crown. Je suis fan de The Crown. J'ai regardé tous les Downton Abbey. J'ai regardé. Je suis assez fan des séries historiques. J'aime beaucoup. Puis j'adore les séries policières. Moi, c'est pour ça que je suis contente d'avoir commencé une collection sur France 3 aussi, où j'incarne une policière, parce que j'adore ça. Je lis beaucoup de livres policiers. Et de jouer une flic, ça me plaît beaucoup aussi.
On va en parler, ça, justement, parce qu'il y a eu deux téléfilms, Le Prix de la Vérité et Le Prix de la Loyauté. Ça va devenir une trilogie, puisqu'il y en a un troisième en préparation. On va y revenir dans un instant. Pour l'instant, je vous propose un petit extrait de Petit Secret entre Amis. C'est ce soir sur TF1.
Salut Joséphine.
Mais qu'est-ce que tu fais là?
J'ai perdu des points sur mon permis provisoire d'ange gardien.
Il faut un collectif soudé pour gagner. Et là, on n'était pas du tout.
Il faut pas la faire, cette course. Mais moi, je veux y aller, à Berkeley. Tu comprends ça?
C'est facile, toi, personne n'a vu ta photo, évidemment. Oui, tu veux faire la course.
Vous avez toutes reçu une photo cette nuit, c'est ça? Bon, apparemment, elles ont été paparazzées.
Et vous en faites une tête. Faut y croire, hein.
Si on annule pas la course, la photo sera diffusée sur Internet.
S'il y a pas de course, il y a pas de bourse.
Vous allez faire la course, vous allez pas abandonner votre rêve. Moi, je me charge du maître chanteur.
Inédit. Joséphine joue les coachs et Tatiana Silva compte les points. Lundi à 21h05 sur TF1.
Voilà, c'est ce soir, Joséphine Ange Gardien, Mimi Matic est notre invitée. Merci encore Mimi d'être avec nous. Alors on parlait du prix de la loyauté, le prix de la vérité. Ça fait du bien aussi de s'évader et sur France 3, ces deux téléfilms ont merveilleusement bien marché.
C'est pour ça qu'on prépare le troisième qui sera complètement différent, qui va s'appeler Le Prix de la Famille. Et je suis ravie de retrouver Mathieu Delarive. Je vais retrouver Jérôme Angers aussi, qui jouait le papa de Mathieu Delarive. Et là, on va vraiment découvrir ma vie de famille, des problèmes avec mon fils, avec ma fille, qu'on va découvrir. Enfin voilà, c'est quelque chose qui nous emmène complètement ailleurs, qui m'emmène ailleurs, Joséphine surtout. Et c'est ce que j'aime aussi. J'ai un âge où je peux me permettre de faire des petits écarts de conduite et de ne pas être qu'un ange gardien, même si je m'éclate encore énormément avec mon ange gardien.
Mais oui, ça, je me doute très bien. Alors 10%, on le disait, hein. Alors enfin, vous arrivez dans cette série pour venir bien faire un guest pour cette dernière saison. Dominique Besnéard à la production. Alors qui c'est qui a convaincu l'autre de venir dans la série?
Dominique, la première année, je lui ai dit j'adore cette série, et il m'a dit mais ma chérie, ce serait une bonne idée que tu participes. Et j'adore cet homme. De toute façon, c'est un homme délicieux, intelligent et profondément humain, qui n'a pas de préjugés, qui n'a pas de catégorie, on est télé, cinéma, lui tout, il aime avant tout les personnes, et il m'avait dit il faut qu'on trouve une idée, et on a trouvé l'idée, et donc je suis ravie j'ai terminé le tournage pour les Césars.
Mais oui, en pleine cérémonie des Césars, il y a eu voilà une partie tournée. Mimi, moi ce que j'adore dans cette série 10%, c'est que vous venez tous jouer vos propres rôles avec une autodérision absolument fantastique.
C'est ce qui est fabuleux, et ils avaient écrit une première base, et donc on a fait un déjeuner avec Dominique et Marc Fitoussi, le réalisateur, et je leur dis mais on peut aller plus loin, j'avais réécrit des choses. Ils m'ont dit on prend, c'est trop génial, on prend, et ils n'avaient pas osé aller assez loin, donc moi j'y suis allée et ça leur a plu.
Revenons à Joséphine qui est diffusée ce soir. Est-ce que vous avez des rêves encore pour Joséphine? Est-ce qu'il y a des endroits où vous aimeriez aller tourner dans le monde, que vous aimeriez que Joséphine parcourt?
J'adorerais aller aux États-Unis, mais c'est un peu compliqué. Il y a plein d'endroits. C'est vrai qu'il faut qu'on reste, comme vous le disiez, c'est une série qui traite d'un problème qui s'arrange bien à la fin, parce que c'est le principe de la série. Mais on essaye d'avoir une base, à la base, c'est un problème que tout le monde peut avoir, sauf que si on le traitait dans une autre série, ça se terminerait pas forcément bien, mais on garde le principe. Et moi, j'aimerais qu'on aborde des sujets graves, comme tout ce qui touche en ce moment les abus sexuels sur les gamins, tout ce qui est difficilement arrangeable à la fin. C'est pour ça que pour l'instant, on s'en est pas sorti, parce qu'on peut pas traiter de l'inceste ou des abus de pédophiles en disant ça se termine bien, youpi, tralala, la vie reprend. Donc je trouve qu'on va de plus en plus dans des sujets graves, et c'est important. On a traité les SDF, on a traité Mais j'aimerais bien aussi qu'on fasse un vrai sujet sur l'immigration. Moi, j'habite Paris et de voir tous ces gens, Porte de la Chapelle, déplacés Porte d'Aubervilliers, déplacés Porte de la Villette et qui sont entassés au milieu des rats avec des gamins et tout. J'aimerais bien qu'on arrive à, mais ce serait plus à des politiques de le faire. Mais si on pouvait en parler et trouver une solution, pas qu'à la Joséphine, parce que même si elle claque des doigts, ses pouvoirs sont gadgets. Elle résout beaucoup en discutant avec les gens, en amenant son client ou ceux qu'il côtoie à changer d'avis, à changer d'idée. Donc si on pouvait arriver à traiter d'un sujet aussi grave que ça, j'aimerais bien qu'on mette le doigt là-dessus.
Oui, parce qu'il faut jamais oublier quand même que Joséphine l'ange gardien a regardé aussi beaucoup par les enfants et que ce sont les adultes de demain.
Exactement, et les adultes de maintenant étaient les enfants d'il y a 20 ans. Ça se transmet de parents à enfants et de grands-parents à parents et à petits-enfants.
Exactement. Alors ce soir, il y aura Kamel Belghazi aussi qui sera en guest dans cet épisode. Voilà, notre William Donnier de Demain nous appartient. Eh bien, on va le retrouver dans un autre rôle ce soir avec grand plaisir.
J'adore Kamel. On avait déjà tourné une fois ensemble. Et là, en plus, comme je suis fan de Demain nous appartient, j'ai essayé de lui tirer les vers du nez. Il n'a rien voulu me dire sur les intrigues à venir. Et c'est un comédien épatant et formidable.
Alors justement, est-ce que la tatie de Laurie va revenir un jour? Si Laurie revient, le temps que Laurie revienne, bien sûr.
C'est juste une question d'emploi du temps. Donc après, c'est une question de temps.
Et la scène, alors, pour terminer?
La scène, j'attends un projet qui me fasse vibrer. J'ai pas envie de revenir forcément toute seule sur scène. Je repartirai bien sur une belle pièce, mais pour l'instant, j'ai pas eu de coup de cœur. Donc j'attends. Il n'y a rien d'urgent, puis j'ai tellement de travail que c'est vrai qu'il faut que je pense aussi un peu à ma vie de famille.
Vous avez bien raison, en tout cas. Mimi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Petit secret entre amis, c'est ce soir, c'est le nouvel épisode de Joséphine Ange Gardien qu'on vous propose sur TF1. À très vite.
À très vite. Merci beaucoup et j'embrasse tout le monde.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre invité aujourd'hui, Thibaut de Montalembert, qui est avec nous. On va parler ensemble de 10%, on va parler ensemble de Miss. Bien évidemment, c'est l'actualité de ce mois d'octobre. Thibaut, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de t'avoir parce que moi j'ai vu Miss déjà depuis un moment, hein, puisque le film on a pu le voir au Festival de l'Alpe d'Huez au mois de janvier. Et le rôle de Lola, franchement, mais il est incroyable.
Oui, c'est un rôle que tout acteur peut rêver, doit rêver, en tout cas moi j'en ai rêvé de faire, et qu'on propose pas toujours, c'est-à-dire de jouer un travesti, de jouer... Alors on a tous dans le souvenir Tootsie, La Cage aux Folles, etc. Bon là c'était différent dans le sens où ce n'est pas une caricature, ce n'est pas... Alors Tootsie n'était pas une caricature, La Cage aux Folles, je trouve, à revoir aujourd'hui, est un peu caricatural. Ce qui était passionnant à faire dans ce personnage, c'était de trouver la vérité du personnage, malgré le baroque, le côté théâtral, des fringues, de la posture, des talons, etc. J'ai été dirigé par Ruben Alves, qui est avec beaucoup d'humanité, et on s'est tout de suite, quand on s'est rencontrés, on s'est mis d'accord en 10 minutes par rapport à ce personnage. Parce que moi, c'était un peu mon inquiétude, c'est-à-dire que je voulais pas en faire une caricature. Je voulais que ça soit autre chose.
Il offre une véritable galerie d'émotions différentes, parce que avec le personnage de Lola, on va rire, mais jusqu'à en pleurer de rire, et à des moments, on peut vraiment pleurer, parce qu'il offre vraiment des scènes d'une grande, grande sensibilité.
Oui, c'est-à-dire c'est un personnage qui est un travesti, qui fait le tapin au Bois de Boulogne, qui est un vieux travesti, et qui est un peu usé, même carrément usé par la vie, qui rencontre Alex, qui veut devenir Miss France, et avec d'autres personnages, ils vont contribuer et l'aider. Et sa rencontre avec Alex, c'est la possibilité pour lui de renouer avec son rêve aussi de petit garçon d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il voit dans ce garçon qui devient tellement belle quelque chose qui est de l'ordre, oui, du rêve accompli, et il va l'aider d'une certaine manière, en tout cas un peu à sa façon et avec ses moyens, il va l'aider à aller dans cette direction.
On va voir ce très très beau film, c'est le 28 octobre au cinéma. Alors il y a aussi 10%, évidemment. Mathias is back pour une ultime saison.
Oui, bah oui, he's back. Alors bon, je peux pas dire grand chose parce qu'on va pas se polier. Mais enfin, il est sorti de l'agence à la fin de la troisième saison. Il est toujours là. Il est toujours là.
Il plane au-dessus des artistes et des nombreux guests qui vont être là pour cette quatrième saison inédite. C'est vraiment la dernière ou pas, Thibaut?
Ah, je pense que c'est bien comme ça d'ailleurs, parce que c'est un espèce d'objet 10% auquel beaucoup de gens ne croyaient pas au départ. Dominique Besnard, qui produit, a eu énormément de mal à l'initier. Il a mis 10 ans avant d'y arriver. Il y est arrivé parce que Cédric Lapiche a rejoint le projet, et donc il a permis que les choses se fassent. Mais c'est quelque chose qui est comme une espèce d'étoile filante dans le firmament. 4 saisons, c'est peu. Et en même temps, ça en fait un objet
événementiel
et qui est très bien comme ça. Il ne faudrait pas que ça retombe, comme c'est souvent le cas ou avec les saisons de différentes séries où on se dit ah dommage, c'est la saison de trop. Voilà.
Là, c'est pas le cas. En tout cas, vous avez beaucoup nous manqué tous à cette agence. Même si t'avais un peu quitté le costume de temps en temps dans la saison 3 quand même, hein, vous voyez que Mathias n'avait plus vraiment la main sur tout. Hein.
Non, absolument. Et d'ailleurs, en même temps, Mathias, c'est toujours quelqu'un qui est, c'est pour ça que les gens, je pense, se sont attachés à lui. C'est quelqu'un qui cherche à être un grand capitaine d'industrie, mais tous ses stratagèmes, en général, se cassent la gueule. Il se prend les pieds dans le tapis et c'est là où il devient humain et drôle aussi.
Quels sont les grands souvenirs que tu gardes de ces 4 saisons de 10% avec Nicolas Maury, avec Laure Calamy, avec Camille Cotin? Vous nous avez offert tellement des scènes savoureuses en même temps, et même si les guests étaient un peu les stars du programme, vous êtes devenus les vraies stars de la série.
Oui, c'est-à-dire que l'idée était formidable de faire intervenir des stars qui jouaient sous leur propre nom.
Avec beaucoup d'autodérision souvent.
Avec beaucoup d'autodérision, absolument. Mais c'est vrai que, en fait, ce à quoi on s'attache, c'est la vie de ces 4 agents et de ces 3 ou 4 assistants. Parce que c'est eux qui nous permettent de lever un peu le rideau sur cet aspect de la vie du spectacle que les spectateurs ne connaissent pas, c'est-à-dire ce qui se passe derrière en fait. Alors les souvenirs, il y en a plein des souvenirs, mais ce que j'ai envie de dire, que le souvenir global de tout ça, c'est que ça a été une aventure humaine vraiment pleine de tendresse et de rire et d'émotion, que je pense que aujourd'hui, quand les gens nous arrêtent dans la rue, ils ont toujours le sourire. Je pense que c'est une série qui a amené le sourire aux gens, et le sourire pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire c'est pas méchant, c'est jamais méchant, c'est autodérision. Il y a beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup de ridicule, mais il n'y a pas de méchanceté du tout. C'est très humain en fait. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est un objet qui est vraiment bien.
Alors il y a 2 personnages qui vont certainement te manquer, personnage que joue Fanny, et puis Philippine, qui joue ta fille et ta femme dans la série.
Oui, absolument, tout à fait. Mais j'ai surtout pris énormément de plaisir à tourner avec Laure, je dois dire, avec Laure Calamy. On a formé un couple ensemble de saison en saison qui est devenu de plus en plus fort et qui fonctionnait très 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 bien.
Bon, des guests, vous l'avez compris, de l'événement, c'est 10%, c'est le grand retour évidemment sur France 2. Miss, le 28 octobre au cinéma, ça aussi, c'est une sacrée belle aventure qu'on va suivre bien évidemment. Thibaut, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
À bientôt.
C'est bon ça, c'est très très bon.
Je veux faire le film, mais il n'est pas question que je le fasse.
Du coup, je joue moi.
Même le Tekken Nerd à la fin, il n'était pas écrit. Hein.
Moteur.
Pourquoi j'ai regardé la caméra là?
C'est ça la vie, tu vois.
Et pourquoi j'aurais besoin de m'imposer?
Je reste à Paris.
J'aimerais bien lire le scénario. Les gens de ce métier m'étonneront toujours.
Oui, mais quand même.
Allez, c'est l'ami David Bann qui fait son arrivée dans Plus belle la vie, et justement on va en parler avec lui puisqu'il sera notre invité dans un instant dans la dernière partie de Chut, on écoute la télé. Alors à tout de suite.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite.
We'll be right back.
La télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé consacré, eh bien, des nouveaux personnages de la série Plus belle la vie. Il est arrivé, eh bien, justement, samedi dans l'épisode en retard qu'il y avait sur France 3. Et c'est une arrivée tonitruante qu'il a fait dans la série. David Bann qui joue Valentin. Et David est avec nous, justement, en ligne pour nous parler de cette nouvelle aventure. Bonjour, mon cher David.
Hello Alain, ça va?
Et ça va très très bien. On peut dire que t'as fait une sacrée impression pour une arrivée. C'est une arrivée.
Ah oui, j'avoue que les auteurs n'ont pas ménagé sur cette arrivée, qui est assez tonitruante. C'est vrai que c'est un peu en mode bulldozer, quoi. Le gars arrive, il est dans la place.
Alors ça commence fort parce que quand t'as Luna qui te répond « Mais quel con !» qui répond et qui dit à Laetitia « Mais quel con !» Il faut dire que tu as fait forte impression, mais il y a tellement de choses qui vont se passer parce que c'est qu'un petit échantillon que l'on a découvert évidemment, mais c'est pendant plus d'un mois qu'une intrigue va se nouer autour de Laetitia et dont tu vas faire partie évidemment. C'est une sacrée belle aventure, dis-moi, Plus belle la vie pour toi. Ça va être une belle visibilité et ça va permettre de montrer aussi tes talents d'acteur, mon cher David.
Oui, c'est vrai que bon, je tourne déjà depuis quelques années en parallèle de la comédie musicale. Je suis surtout connu du grand public pour les comédies musicales comme Les Trois Mousquetaires, Les Amants de la Bastille. Enfin, je suis un peu ceinture noire de karaté de comédie musicale, si tu veux.
Oui, la dernière Bernadette aussi.
Bernadette, dernièrement, j'en ai fait 12 qui vont de gros spectacles commerciaux à des spectacles qui viennent de Broadway. Et c'est vrai qu'en parallèle, je commençais déjà à tourner pour la télé, pour les séries. J'ai tourné pour Munch, j'ai été révélé pour Le Bureau des Légendes. Mais c'est vrai que la Plus belle la vie m'offre une très très belle visibilité sur un très beau personnage qui est très singulier. C'est un personnage qui est tellement atypique qu'il est dans sa bulle, il est dans son monde, il a ses codes. C'est un, bon, on le voit déjà sur cette première arrivée, c'est un bourgeois, un peu aristocrate, qui est milliardaire, hein, donc il arrive et il va vraiment faire une forte impression à certaines personnes, mais dans le bon sens, dans le mauvais sens d'un premier temps, et voir comment ça va. Est-ce que ça va être un gentil, est-ce que ça va être un méchant, ça, l'avenir
le
dira.
On ne sait pas, on va le découvrir en tout cas. T'avais oublié aussi l'un de tes plus grands rôles au cinéma quand même, là il y a quelques instants, où on peut te découvrir également dans le film bientôt en DVD, c'est Le Lion. Tu te prends une espèce de mandale par Danny Boone quand même.
Oui, j'ai eu la chance vraiment de tourner avec Danny Boone et Philippe Catherine. Et Danny Boone m'explose la tronche. C'est, on va dire, une entrée fracassante dans le cinéma, hein, j'ai envie de te dire. J'aime toucher à tout. J'ai une formation de cascadeur aussi, de formation en combat. Manipulation d'armes, soit être en mousquetaire, on manipule les armes, la comédie musicale. Et c'est vrai que j'adore, en fait, le mélange des genres, que ce soit le chant, le théâtre, la danse, la comédie. Dès que je peux apprendre un art nouveau, j'ai eu la chance aussi sur la forme secrétaire de faire du machinois, tu vois, avec les gens du Cirque du Soleil. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de s'aventurer dans des terrains qui sont pas forcément faciles. C'est là qu'on évolue encore plus. Et là, sur ce personnage, j'appelle Valentin Carrier, qui est vraiment un riche homme d'affaires, milliardaire. C'est un rôle de composition, ce personnage.
Je me doute.
C'est pas moi. C'est pas moi du tout, c'est vraiment à l'opposé de ce que je suis. Donc il a vraiment fallu que je propose un personnage que j'ai utilisé dans une imagination, trouver mon personnage. Ça, c'est hyper intéressant.
Alors, Valentin va partager beaucoup de scènes avec Laetitia, jouée par Caroline Rioux, qu'on aime beaucoup, à qui il arrive tellement de malheurs habituellement, que là, c'est une Laetitia qui va sortir des sentiers battus un petit peu, qu'on va découvrir, sans déflorer évidemment l'histoire. Mais on va dire qu'on va voir Caroline comme on ne l'a jamais vue dans Plus belle la vie. Et ça va faire, je pense, beaucoup de bien. Mais ta rencontre déjà avec Caroline Rioux, comment ça s'est passé tous les deux?
Alors, ce qui est génial, c'est qu'avec Caroline, on a vraiment la même manière de fonctionner. On est très, très perfectionniste dans le travail. Travailler un rôle, c'est pas juste réciter des phrases qui ont été écrites par les auteurs. C'est vraiment essayer de connaître les tenants, les aboutissants d'un personnage, quelle est sa psychologie, sa manière de fonctionner, comment ces deux personnes complètement différentes vont pouvoir avoir des points communs. Et donc, avec Caroline, on s'est contacté avant même de commencer à tourner pour vraiment essayer de on s'est retrouvé autour d'un café à Marseille, on s'est présenté parce qu'il y a énormément de complicité entre ces deux personnages et du coup tu peux pas arriver comme ça sur le plateau parce qu'il faut savoir que Plus belle la vie ça va très 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 vite pour tourner donc on voulait arriver déjà avec se connaître. J'ai tourné 5 ou 6 séquences dès le premier jour dont 3 que vous allez découvrir qui sont pour commencer avec des séquences comme ça il faut être prêt.
Alors attends,
je ne dévoile rien.
Non, on va rien dévoiler, on va juste dire aux téléspectatrices, accrochez-vous, il va y avoir du beau gosse.
Je ne dis rien. Pour revenir à Caroline Rioux, c'est une merveilleuse rencontre. On l'a tout de suite matché, on s'est tout de suite entendu, on est sur le ton de la comédie, mais pas que. Donc du coup, c'est un timing, il faut vraiment être hyper à l'écoute de son partenaire, et alors on s'est tellement bien entendu. D'ailleurs, les auteurs ont été parfaits, sur l'écriture, on est très bien servi. Je suis très, très, très bien servi pour mon personnage. Je suis vraiment très heureux de camper ce personnage qui est complètement lunaire. C'est un personnage, j'ai envie de dire qu'au début, on n'a pas envie de l'aimer, puis après, on se dit, en fait, on l'aime bien, quoi. Mais parce que, par tous ses travers. Bon, j'en dis pas plus. Mais en tout cas, c'est un personnage qui a beaucoup de facettes.
David, sans en dire plus, maintenant, on va revivre ton arrivée dans Plus belle la vie. C'était samedi. Vous avez peut-être raté l'arrivée de David Bann dans Plus belle la vie samedi. Voici la petite séance de rattrapage en ligne pour vous. Extrait.
Valentin Carrier, je suis crevé. J'ai besoin d'une chambre.
Bonjour. Vous avez une réservation?
Oui, bonjour. Non, je n'ai pas de réservation.
Désolé, mais nous sommes complets.
Attendez, là, ici, là, c'est complet.
Oui. Avec les mesures sanitaires actuelles, presque un hôtel sur deux est fermé à Marseille.
J'ai fait tout le tour de Marseille, rien n'est disponible. On peut peut-être s'arranger. Je suis prêt à vous payer le double de la chambre.
Ah non, désolé, mais on fait pas ça ici.
Je vous donne le triple.
Oui? Non, c'est pas ça qui va libérer une chambre.
Écoutez, je vous donne 4 fois le prix de la chambre.
Monsieur Frémont est parti en week-end. Moi, je veux bien bouger ses affaires et préparer la chambre. Enfin, si monsieur est prêt à en donner 5 fois le prix.
Non, j'ai dit 4 fois le prix de la chambre.
Et moi, 5.
Ok. Bon, mais je vais aller m'installer sur la terrasse du petit boui-boui en face. Vous venez me chercher quand c'est prêt? Merci.
Allez, de retour, vous avez revécu l'arrivée de David Bann dans Plus belle la vie. Alors c'est pas mal, effectivement, comme dirait Luda, mais quel con.
On a eu beaucoup de plaisir à jouer cette scène parce que c'est de la comédie pure. Elles se retrouvent toutes les deux face à un énergumène arrivé d'une autre planète.
Avec un petit costume bien moulant en plus.
Je suis tellement bien servi au niveau de mes costumes. Mais ce qui est très drôle, c'est que ce personnage ne doute de rien. Il arrive... Il est en terrain conquis, quoi. Mais c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Donc, pour lui, qu'on lui refuse, qu'on lui dise non, c'est impossible. Ça n'existe pas. Donc, c'est très drôle parce que quand Laetitia décide de, il veut jouer à ça, donc elle le fait marcher, elle marchandait, et elle lui fait payer 5 fois le prix de la chambre, il se rend compte qu'il a affaire à quelqu'un en face de lui, un petit caractère, et voilà. Mais donc, voir comment les choses vont évoluer maintenant.
Peut-être tombera-t-il sous son charme ou elle tombera sous son charme. C'est ce qu'on verra dans les épisodes qui vont arriver. Alors, il y a plein de choses qui arrivent pour toi aussi, David. Tu vas tourner dans Scam, également la série de France TV Slash.
Oui. C'est une série qui est pour les jeunes. C'est vrai que c'est très, très, très regardé. Et je trouve que c'est de très bonne qualité. Pareil, je joue un rôle intéressant. Et aussi également tourner pour la nouvelle série TF1 qui s'appelle Luther, adaptée de la série qui tourne sur Netflix avec Idriss Elba. La série
éponyme.
J'ai compris aussi un rôle, je ne peux encore rien dire. Mais tout va bien. Et je viens de tourner pour Mortel Calante, un unitaire avec Philippe Basse et Shems qui jouaient
Vanessa dans Plus belle la vie. Elle jouait copine d'Abdel, effectivement.
Et alors pareil, on a eu une scène ensemble. Et, en fait, elle adore chanter, donc moi j'adore chanter aussi. C'est pareil, hein, sur Plus belle la vie, je chante tout le temps. Et du coup, j'ai la guitare qui est là-bas, il y a une guitare en coulisses, donc les tournages sont joyeux avec moi.
Bon, David, il y a aussi évidemment le deuxième album qui est en préparation, dont on va découvrir un extrait en avant-première d'ici quelques instants. Et David, ce deuxième album, il est pour quand alors? Parce que tes fans l'attendent, je crois.
Ben oui, alors c'est vrai que je prends le temps avec toutes les... Parce que, franchement, j'ai la chance dans ce contexte tellement difficile pour les artistes de travailler. En ce temps-là, pour essayer de réaliser un album qui, un deuxième album qui me ressemble encore plus que le premier album.
Que Alpagueur.
Avec lequel, ouais, Alpagueur, avec lequel j'ai pu faire beaucoup, beaucoup de concerts. Aujourd'hui, c'est cette difficulté qu'on a, les artistes, en tout cas du spectacle vivant, c'est de ne pas pouvoir être sur scène. Donc, évidemment, je prends ce temps-là, de ne pas pouvoir être sur scène, pour préparer, des chansons, au mieux, avec des beaux arrangements. Je suis très heureux des titres qui se préparent. Il y a des beaux duos, il y a des belles choses qui sont... Voilà, je me fais plaisir, j'invite des copains. Et voilà, j'espère que les gens seront au rendez-vous, mais en tout cas, ça va arriver très vite. Là, j'ai déjà un titre qui est sorti juste à la fin du confinement, qui s'appelait Libre, qui était plutôt de bonnes circonstances,
oui.
Après pour le déconfinement. Et là, j'ai un autre titre qui s'appelle Comme nous, qui est en duo avec Sarah Caïbo. Sarah Caïbo qui interprète le rôle de Louise Soubirous dans le spectacle d'un rêve de Lourdes. C'est une très belle rencontre et j'avais écrit ce titre-là et composé ce titre-là. D'ailleurs, écrit avec elle et moi j'avais composé la musique et on avait composé ça à Lourdes.
Alors, un titre qui a été demandé à corps et à cri parce que tu l'as chanté en concert alors que ce deuxième album est en préparation, il n'était pas sur le premier, ça va être encore plus fort.
Encore plus fort.
Ça y est, il va y être sur le deuxième album encore plus fort.
Bien sûr, bien sûr. Ça a été les prémices... Le deuxième album, c'est un titre qui est hyper important pour moi. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, quand on a fait les tournées ensemble, les gens étaient hyper réactifs sur ce titre et venez m'acheter l'album alors que je faisais la balance, quoi. Donc c'était assez incroyable.
Exactement. Et là, eh bien, on va en découvrir un petit extrait avant de se quitter, évidemment, parce qu'encore plus fort, c'est toujours le plaisir de se retrouver. David, on reste connecté ensemble et puis on se dit à très très vite dans Chute, on écoute la télé.
Oui, alors je fais juste la parenthèse sur le spectacle d'Ernest de Lourdes qui est prévu de partir dans le mois du 4 avril.
Qui reviendra, au printemps prochain, normalement.
On va voir selon la situation sanitaire, bien sûr.
Bon, David, voilà, merci d'avoir été avec nous. Et puis tout de suite, on monte le son encore plus fort. C'est David Bann dans Chute, on écoute la télé.
Ambiancez-vous.
Merci David, à très vite.
Des bisous, ciao, ciao.
Tu as brisé les lois de ma solitude. Touché à bout portant les mois par habitude. J'ai cru pouvoir déjouer toutes tes certitudes. Mais j'ai plié sous le poids de ton ingratitude. Un jeu dangereux, si gagné d'avance, le perdant de nous deux n'est pas celui qu'on pense. Je joue un jeu dangereux, telle est ma sentence. Je perds et c'est tant mieux, car à l'évidence, j'en veux encore.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et voilà, on va donc se retrouver lundi prochain dans Chute, on écoute la télé pour une toute nouvelle émission, sous réserve évidemment eh bien, que la sortie des films soit repoussée. Mais nous devrions recevoir eh bien, l'ensemble de l'équipe du film Miss qui devrait être avec nous et seront au rendez-vous Stéphie Selma, Pascal Arbillot, Ruben Alves et Alexandre Vetter. Garçon Chiffon sera également à l'honneur avec Nicolas Maury, son réalisateur. Et puis nous commencerons à parler de la série. Si tout commence avec une de ses coproductrices, Sarah Faramand, qui sera en ligne avec nous pour nous donner les premières infos. Donc, vous l'avez compris, on ne devrait pas s'ennuyer encore lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Allez, n'oubliez pas que Chut, on écoute la télé, c'est aussi toute la semaine avec La Quotidienne à 5h35, 10h30 et 12h20 sur Radio Dune. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chut, on écoute la télé. Vous pouvez également aller télécharger dès maintenant nos applications pour iPhone et Android Chut, on écoute la télé. Et moi, je vous retrouve également lundi prochain à 16h pour La Grande Hebdo. D'ici là, passez une très très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Radio Dune.
Chut, on écoute la télé avec les piscines Pascal Delcroix, votre concessionnaire Everblue sur le bassin d'Arcachon. Construction, rénovation, entretien, terrasse, produits piscine. Retrouvez-nous 27 rue Denis Papin à Andernos ou sur delcroix-paysagiste.fr.
Chut, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.